10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, pour faire face aux variants Delta, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine s'adapte. Elle organise sa distribution de vaccins pour être au plus près des vacanciers. Plus de doses seront à disposition dans les centres, mais également chez les professionnels libéraux. Manifestation, les grèves se poursuivent ce week-end dans les aéroports de Paris. Environ 200 salariés ont manifesté hier contre la baisse des salaires. Trois syndicats appellent à la grève jusqu'à lundi pour obtenir le retrait du plan d'adaptation des contrats de travail. Ce dernier prévoit une baisse ou une suppression des primes. Perquisition au ministère de la Justice pour Xavier Dupont-Moretti. L'Union syndicale des magistrats est en cause. Le ministre de la Justice s'est exprimé dans le journal du dimanche aujourd'hui et a implicitement mis en cause le syndicat. La perquisition a été effectuée jeudi dans ses bureaux. Il s'est pourtant déclaré très serein. Il est soupçonné de conflit d'intérêts et d'avoir profité de sa position de ministre pour intervenir dans des dossiers dans lesquels il était auparavant avocat. La maison d'édition Albin Michel a annoncé qu'elle n'éditerait pas le prochain livre d'Éric Zemmour. Selon elle, il veut devenir un homme politique et c'est la raison pour laquelle elle a fait ce choix. Dans un communiqué, la maison d'édition a précisé que le polémiste lui avait fait part de son intention de s'engager dans l'élection présidentielle. Zemmour dément de son côté avoir dit qu'il serait candidat. Immeuble effondré en Floride, le bilan s'établit désormais à 24 morts. Les recherches se poursuivent même si les chances de retrouver des survivants sont quasiment nulles. Les autorités locales ont indiqué hier que le reste du bâtiment serait détruit plus tôt que prévu à cause de la tempête Elsa. Au Brésil, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier contre le président Bolsonaro. Il fait l'objet depuis vendredi d'une enquête préliminaire. Il est soupçonné d'avoir omis de signaler une tentative de corruption dans l'achat des vaccins contre le Covid-19. Les manifestants ont réclamé sa destitution.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans l'actualité locale, on va tout d'abord à Hermeray. Depuis le 2 juillet jusqu'à ce soir, la circulation est perturbée dans le village du fait du tournage d'un court-métrage avec les enfants de l'école. Les lieux de tournage, c'est autour de l'église et de la rue des Noues. Le parking de l'église sera également fermé aux riverains. À Réseau ce dimanche, c'est le marché et ce marché fête l'été. Donc on vous y attend en nombre, toujours à Réseau, dans le cadre de la réhabilitation du parking de la mairie. Celui-ci sera fermé à compter de mercredi prochain jusqu'au samedi 31 juillet, pour cause de travaux, bien sûr, de réhabilitation. À Sonchamp, la route forestière du coin du bois sera fermée de lundi au 7 juillet inclus, de 7h à 18h durant cette période. L'espace Rambouillet reste ouvert au public, mais est accessible uniquement via la départementale 27 qui relie Rambouillet à Clairefontaine. Une coupe de sécurisation est programmée afin de retirer trois gros chênes dépérissants qui peuvent représenter un danger sérieux pour les usagers et les automobilistes. À Vieille Église en Yvelines, la mairie vous alerte sur la présence de chenilles processionnaires. Quelques-unes ont été d'ailleurs détectées dans les chemins des rigoles, par terre et dans les arbres. Étant dangereuses pour les êtres humains et pour les animaux de compagnie, il vous est demandé de redoubler de vigilance pendant vos promenades. La météo de ce dimanche, c'est un ciel qui alternera nuages et éclaircies avec de rares averses dans la matinée. Dans l'après-midi, on devrait avoir des averses orageuses et de fortes rafales de vent. Les températures dans la journée aux alentours de 20 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses ce matin à vous raconter avec notre équipe habituelle, hein. On va naturellement parler en grosse partie eh bien, de la suite de l'Euro de foot, et puis la deuxième partie du Tour de France. On se régale actuellement au niveau de l'actualité sportive, hein. Bon, l'actualité sportive locale, elle est un tout petit peu maintenant à l'arrêt, en stand-by, mais pour le reste, les amoureux du sport sont particulièrement gâtés. On salue notre Stéphanois de cœur, Bibi Moreau. Salut Bibi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bon, l'équipe de France éliminée, hein, on en parlait hors antenne, on va naturellement très largement l'évoquer. notre ami aussi José, alors lui, double peine, hein, oui. Les Portugais et les Français éliminés. Salut José.
Oui, double peine, mes deux équipes préférées éliminées. Donc, bah, je vous avais dit en début de compétition que j'allais soutenir l'Italie et l'Italie est encore là. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit Portugal-France.
Il faudrait ressortir les bons.
Si l'Angleterre gagne, attention, là, t'es mal.
Non,
t'es
mais je reste sur ma position. Je pars pour l'Italie.
Ouvertement, hein, l'Italie, c'est celle qui a provoqué, qui a fait le meilleur collectif depuis donc.
Oui, tout à fait.
Le début de cet euro. Donc on verra bien. La suite, c'est pas toujours l'équipe qui joue le mieux au ballon qui malheureusement gagne. L'histoire du foot, elle en est remplie. Et puis bah notre ami Pierre, salut Pierre.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Ouais, bon, il reste Espagne.
Oui, mais moi bon. Je suis français, même si je suis d'origine espagnole, je suis français.
Je sais bien.
Voilà, moi je regarde ça avec maintenant intérêt et
passionné et passionné comme nous, voilà, aussi de la mêlée. Voilà, c'est bien. Alors l'équipe de France donc éliminée. C'est vrai que la semaine dernière, si après cette émission, on nous aurait dit, messieurs, faudra commenter l'élimination de l'équipe de France, hein, 3-3 après prolongation, 5-4 au tir au but. L'équipe de France qui s'arrête en 8e, personnellement, j'avais jamais vu l'équipe de France se faire éliminer en 8e d'une grande compétition. Je l'avais vu sur des premiers tours de phase finale, des demi-finales, des quarts de finale, mais jamais donc sur des 8e de finale. Qu'est-ce qui a planché pour vous? Qu'est-ce qui a fait que l'équipe de France est tombée, Bibi?
Bah, c'est tout un ensemble, hein, déjà. La motivation, je pense. Bon, si, je pense que c'était moins.
Je pense qu'ils sont tous motivés. Hein, quand on fait un départ d'un euro, on veut tous le gagner. Hein.
On veut tous le gagner, mais à plus ou moins grande échelle. Quand on voit les petites équipes, notre première émission, je disais qu'il n'y avait pas de petite équipe, qu'on revenait à un certain niveau. Maintenant, il y a le petit plus qui fait que voilà, il y a cette motivation supplémentaire. Quand on regarde l'équipe de France, moi, j'ai trouvé un petit peu en dessous au niveau motivation. En ligne arrière, bon, la défense, il y a eu des lacunes. Et sur lâchement.
Oui, alors pour moi, la faute. Qu'est-ce qui fait dire ça? C'est le dernier quart d'heure où on gagne 3-1, on ne doit pas être remonté.
Oui, on ne doit pas être remonté. C'est inacceptable, même si on peut passer sur toutes les autres choses.
Hein, alors,
les
on a problèmes. Franchi peut-être physiquement et psychologiquement. Hein, psychologiquement et physiquement aussi.
Oui, enfin, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a le physique, ceci, cela, mais c'est pas à 3-1. Je veux dire que c'était plié. À un moment, il reste 10 minutes. Le physique, on est capable de serrer. On est capable. Le problème, c'est ça. On n'aurait pas eu la même discussion si le match était arrêté.
Il y a même un fait de jeu qui est très important et qui a malheureusement beaucoup joué. C'est que même Deschamps, il croit le résultat atteint. Il sort Griezmann, il fait rentrer un plus défensif, Sissoko. Et malheureusement, Griezmann, il a quand même manqué dans la prolongation. Hein.
Et c'est pour ça que la motivation, ce petit truc supplémentaire à 3-1, si c'est était regardé en disant eh oh les gars on était menés, ça joue en face, mais stop, on serre là les gars, il y a rien de perdu.
Bon,
et ça s'est pas fait. Moi je pense
il y a eu quand même des boulevards dans la défense, hein, sur les deux
buts. On va quand même pas taper sur l'équipe de France, on les a toujours soutenus jusqu'à maintenant.
Non, mais c'est pas taper, c'est faire un constat.
D'accord. Il y a une carence quand même dans le
match. À un moment, on va pas dire qu'ils sont beaux dans la défense,
oui,
on va pas dire qu'ils sont beaux.
Mais pour moi c'est un accident de parcours, ça peut arriver.
Oui, moi aussi je pense.
Et bon, des joueurs comme Pavard qui ont fait toute la saison beaucoup de matchs au Bayern, avec le Bayern, il était cuit, on le voit depuis le premier match contre la Hongrie, il était cuit.
Bon, il était déjà à la rue contre Hongrie.
Peut-être qu'il aurait fallu le remplacer d'entrée, mais bon, on avait Digne, c'est vrai, on avait Digne qui était blessé, on avait Hernandez qui était blessé, et donc à ce moment-là, il n'y avait pas trop de choix. Il y avait du bois.
Et puis il y avait Boudé qui a joué.
Mais donc, pour en revenir au match par lui-même, c'est vrai que arriver à 10 minutes de la fin, mener 3-1, ça m'a fait rappeler un petit peu l'équipe de France de Séville en 1982.
C'était le même score.
Voilà. Quand Marius Trésor avait fait la reprise de volée, qu'on menait 3-1, Giresse, etc., etc. Et puis que Roubaix lui met une grosse tête et puis Rumenig, on égalise et on perd au pénalty. J'étais vert. J'étais vert de colère.
C'était pas clair, on n'avait pas l'expérience quand même.
On n'avait pas l'expérience.
On dit là à l'heure actuelle qu'on trouve un excellent joueur dans l'équipe de France depuis le début du tournoi. Non, l'équipe de France a joué sans. Voilà.
Mais bon,
donc. Il y avait pas
je vous dis, pour moi, c'est un accident de parcours. Non, et on va se reprendre, on va réencourager notre équipe de France, on va être derrière elle, on va la soutenir, on va repartir. Et Deschamps, il va resserrer les boulons, il va remettre tout ça dans l'ordre. Et je pense qu'on va s'en sortir.
Ouais, il y a eu quand même dans le 7 euros pour l'équipe de France. Bon, c'est un parcours qui est mitigé, il faut le dire. Il y a eu quand même, s'il y a un secteur où ça a failli, c'est le côté défensif. On l'a vu contre les Hongrois et on l'a vu donc contre la Suisse, hein, Pierre.
Oui, c'est vrai.
Bon, offensivement, Benzema était là. Bon,
voilà. Mbappé, lui, mais, c'est zéro, mais il faut aussi tirer un grand coup de chapeau à l'équipe suisse parce qu'ils n'ont jamais abdiqué. On parle de l'équipe de France, certes, mais aussi les Suisses, ils n'ont rien lâché. Tout à fait. Surtout, oui, parce qu'à 2-0, ce n'était pas la même histoire.
Oui, et puis la preuve, pour conforter ce que je vous ai dit, les Suisses, ils ont failli sortir les Espagnols.
Oui, c'est vrai.
Sarajevo, c'est un peu l'élimination de l'équipe de France.
Ils sont éliminés qu'au pénalty. Hein.
La Suisse, c'est une année où on les attendait plus. Années où on les attendait plus parce qu'il y a une relève de la jeunesse suisse. Voilà. Mais là, cette année, moins. Et ils sont peut-être arrivés un peu plus tranquillement et sereins.
Oui.
Et ils ont pu mettre en place leur jeu et faire peur à l'adversaire et nous sortir. Quoi. Mais pour revenir sur l'équipe de France, moi, je pense que, objectivement, quand même, c'est un échec.
Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. C'était pas l'objectif de s'arrêter en huitième.
José dit c'est un accident de parcours. Très bien. Mais on est quand même les champions du monde en titre.
Oui, il y a eu des champions
du
monde qui ont été éliminés à l'Euro.
Oui, bien sûr. Mais à partir du moment où Benzema il revient en équipe de France, on est les ultra favoris de la compétition, même dans toute l'Europe.
Oui.
Après voilà, la première mi-temps a été vraiment désastreuse.
Ouais, mais ça c'est le système tactique de Deschamps qui a été très vite corrigé.
Hein. Du coup,
bien sûr.
Voilà.
Mais ça a été corrigé.
Après, je pense que c'est une défaillance collective, c'est-à-dire que Deschamps a sa part de responsabilité.
Bien sûr.
Varane, Pavard, ont leur part de responsabilité. Mmh.
Parce que Pierre, je te coupe, mais sur les buts, c'est les deuxième et troisième buts, c'est la défense centrale. Hein,
voilà. L'anglais qui est pas
présent.
L'anglais qui
saute. L'anglais s'est fait sortir à la mi-temps.
Oui, bien sûr, mais l'anglais. Le premier but qui ne saute pas.
Varane, il est à la rue sur les,
voilà,
sur les buts.
Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème physique. Il y a une image qui trompe pas. Une image qui trompe pas, c'est Benzema qui sort. On a l'impression qu'il va faire un malaise sur le terrain. Il est pas bien. Il est obligé de sortir pratiquement en urgence parce que il va faire. Il a un problème. Donc oui, cette équipe-là avec des grosses individualités qui jouent dans les meilleures équipes d'Europe, qui vont en demi-finale, en finale de Ligue des Champions. On a peut-être un peu tiré sur la corde et peut-être que physiquement c'était chaud.
Alors Pierre, voilà. C'est bien parce qu'on voit quand même dans cet Euro qu'il y a beaucoup de blessés quand même.
Voilà.
Toutes les grosses équipes ont des blessés. Les saisons, elles ont été très longues. Ça a été pratiquement deux saisons avec le Covid. Et on voit l'Italie, on voit d'autres nations où il y a quand même des blessures. Hein. Donc c'est pas lié qu'à l'équipe de France.
Non, il y a beaucoup de blessures et les matchs à répétition avec des reprises précoces à cause de la crise sanitaire.
Il y a eu deux saisons.
C'est compliqué, mais après c'est vrai qu'il y a, l'équipe de France, j'espère que maintenant elle va repartir. On va voir si elle repart avec Deschamps. Déjà on en parlait en antenne, mais est-ce que Deschamps va rester parce qu'il va falloir gérer tous les égos. Apparemment il y a eu des problèmes en interne.
Oui, ça c'est sûr.
Est-ce que Mbappé va digérer son tir au but parce que tout le monde lui tombe dessus.
Zéro pointé, est-ce que c'est justifié?
Non, moi justement c'est ce que
zéro
je voulais
pointé,
dire.
C'est pas le fait qu'il rate le tir au but, c'est le fait qu'il a un zéro pointé.
Non, mais
sur l'ensemble
Philippe,
de
tout le monde autour de la table.
C'est vrai qu'il a pas été à la hauteur de nos espérances quand on le voit jouer parfois avec le Paris Saint-Germain. Il est percutant, il est tranchant et puis il arrive à aller au bout. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu.
Parfois des grands matchs quand même.
Oui, mais voilà. Oui,
la finale contre le Bayern, il a raté.
Oui, après c'est un jeune joueur encore. C'est un jeune joueur. Il a 22 ans. Faut pas oublier
qu'il vient juste d'avoir.
Mais moi, je suis pas supporter parisien. Mbappé, c'est un joueur qui est de l'équipe de France et moi, je l'adore. Et là, on attendait plus de lui. Après, c'est clair que. On sait très bien que lors des Euros, des Coupes du Monde,
est-ce qu'il a pas
tous les supporters de la France qui connaissent pas le football, qui vont commencer à regarder le foot,
est-ce qu'il a pas un petit peu trop
le tir au but,
est-ce qu'il a pas un tout petit peu trop de pression
quoi ça?
Là, pour revenir, enfin moi je supporte mon équipe de France depuis, je l'ai dans le sang. C'est bizarre parce que si on avait arrêté ce satané match 10 minutes plus tôt, on n'aurait pas le même discours. Les lacunes des uns et des autres, on serait pas en train de faire une fixation sur Mbappé ou autre chose. Par contre, on serait peut-être à ce jour, même si on était qualifié pour les demi-finales, en train de se dire, c'est quand même léger l'équipe de France en défense, parce que c'est vrai, sur les matchs qu'on a vus. Bon, Mbappé qui marque pas, c'est vrai que c'est un problème, mais je pense que dans l'avenir, c'est des problèmes qui peuvent être résolus, quoi.
Réglés.
C'est pour ça que je suis d'accord avec José.
Le seul qui est capable à l'heure actuelle, je pense, de régler tout ça, ça reste des champs, parce que ça reste quand même un gros truc. Ouais, je pense. Lui, il va trouver la solution. Mmh, et demain, il va dire voilà.
Il va la trouver, il va reprendre ses joueurs en main. Oui. Les affaires d'égo entre joueurs, ça va disparaître. Deschamps est un grand tacticien. Il va arriver à remettre tout ça dans l'ordre.
Mais ça reste néanmoins, gars, quand on se pointe,
je pense qu'un jeune joueur comme Mbappé, qui a que 22 ans, est-ce qu'il a pas un peu trop de pression sur ses épaules? Est-ce qu'il supporte la pression qu'il a? C'est quand même un des meilleurs joueurs au monde.
Et bah, faut l'enlever de l'équipe de France.
Non, mais c'est pas seul. Oui. La pression, Benzema l'avait autant.
Voilà. C'est portugais, José Cristiano, il a la pression de gagner.
Oui, mais voilà.
Les mecs, et puis c'est leur boulot. Au niveau physique, il y a des préparateurs.
Après, il y a le mental aussi. Ronaldo, il a un gros mental. Est-ce que Mbappé a un mental pour supporter tout ça?
J'ai revu une image lors de l'Euro 2004. Cristiano, il a loupé son pénalty.
Oui, et puis il a pleuré à la fin quand il a perdu la finale.
Il avait le même âge,
oui. Oui, c'est
donc,
vrai.
Si tu veux, bon, ça passe par là aussi.
Non, c'est pas le fait de rater le pénalty.
Non, c'est
le fait d'avoir un zéro pointé sur l'ensemble
du tournoi pour l'attaquant. Des fois, il s'excentre à gauche, il s'enferme, il veut faire la différence.
Personnellement, moi, je trouve parfois un tout petit peu trop personnel. Aussi bien avec le PSG qu'avec l'équipe de France sur certaines occasions. Mais c'est un immense joueur, quoi.
Et est-ce que l'équipe de France n'était pas dans un certain confort aussi? Tout comme nous, on l'a vu dans un certain.
Est-ce moi, j'étais persuadé. En 2002, oui.
Moi, je me pose la question.
On était champion du monde.
Non, je pense qu'on peut faire confiance à des champions pour être dans un certain.
Dimanche dernier,
confort.
On disait que la Hongrie, ça nous avait fait une piqûre de rappel. Et que ça devait servir de leçon.
Oui.
Et là, je pense que l'équipe de France, à la mi-temps, Deschamps, il a dû mettre les points sur les i. On change le système. Il leur met le soufflant. Il leur dit maintenant, si vous voulez passer, il va falloir mettre le bleu de chauffe et partir au combat. C'est ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on s'est pas
3-1,
vu
3-1, on est retombé là, je pense, dans
l'article. Peut-être qu'il manquait un patron.
Si on gagne et si on gagne la séance de tir au but, le commentaire,
Non, mais
je veux dire, ça atténue un peu les jugements.
Est-ce qu'on s'est pas vu trop beau par rapport à la Suisse? C'est ça. Est-ce qu'on a respecté l'adversaire?
Oui, c'est sûr.
Mais on s'est pas vu. Mais les joueurs, mais c'est pas méchant parce qu'on sous-estime pas, moi, la Suisse, je les ai pas.
On s'est dit, c'est la Suisse, on va jouer. Bon, quand on a égalisé, on menait 3-1.
Je pense qu'à 3-1, à 3-1, ils se sont dit, c'est bon, c'est terminé. Le match est terminé comme beaucoup.
C'est bien ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on s'est pas vu trop beau par rapport à la Suisse?
C'est ce que j'ai dit. Même Deschamps, pour lui, le match était terminé.
Voilà.
Il prend une option plus défensive en faisant rentrer un 10, un faux 10.
Ce qui est pas ce qui est cohérent, plutôt.
Oui, mais ce qui est cohérent, c'est ce qu'il fait régulièrement. Et là, ça se passe mal. Parce que je pense que l'équipe, elle a flanché physiquement.
Ouais.
Dans le dernier quart d'heure, elle a flanché physiquement.
Tout à fait.
Parce que c'était pas dans les plans. Même à 3-2.
Est-ce qu'il y a pas, il manquait peut-être quelqu'un, enfin moi, je
suis
un patron qui dise, eh les gars,
Pogba.
Normalement, Varane, il est censé être aussi un peu le patron.
Pogba, sans incriminer personne. C'est qu'à un moment, enfin moi, je me rappelle quand je jouais au foot, on avait un capitaine qui était là pour nous remettre, eh les gars, on y va, on veut la gagne. C'est match à élimination
directe. Je pense que d'habitude, le Lloris, il a plus de mordants et il les engueule un peu plus. Là, c'est vrai qu'on n'a pas vu.
On les a pas vus rameuter. C'est-à-dire que il y a toujours eu un débat sur le fait que le gardien soit capitaine, c'est peut-être pas une bonne chose parce qu'il n'est pas au cœur du jeu.
De toute façon, le capitaine.
Ça s'est vérifié là,
le capitaine, c'est quelqu'un qui a une force de caractère au-dessus des autres.
Mais ce débat du capitaine, je crois qu'à chaque échec de l'équipe de France, on l'a à chaque fois depuis l'ère des champs parce que Varane et Lloris et Pogba, il n'y a pas vraiment de leader vocal en fait. C'est des leaders techniques.
Pierre, sur les images qu'on a eues quand même sur la Coupe du Monde 2018, on a vu que le vrai leader c'était Pogba. C'était lui qui remontait tout le monde dans le vestiaire avant même Lloris.
J'entendais Bibi tout à l'heure dire qu'il n'y a pas vraiment de joueur qui ressort. Je trouve que Pogba c'est celui qui a fait le meilleur euro pour moi.
C'était le meilleur du lot.
Voilà.
Mais le meilleur du lot.
J'ai entendu des amis à moi me dire c'est quand même lui, tu l'encensais quand il marque son parce qu'il met
un fabuleux but,
c'est lui qui perd la balle du 3-3 au milieu de terrain.
La différence c'est que Pogba, on sait tous ici parce qu'il s'en est jamais caché que lui, la défaite contre le Portugal, il l'a encore là.
Ouais.
Il sait ce que c'est que de perdre. Alors est-ce que c'est pas quelque chose qui a manqué à des joueurs, parce que dans les champions du monde, il y en a combien qui ont déjà perdu une finale?
Beaucoup l'ont dit que ça les a aidés à gagner la finale de 2018. Voilà,
mais hein, je veux dire que Pogba, il le remet à chaque fois.
Ouais.
Il remet à chaque fois, donc c'est ça. Après, c'est...
Moi, je crois pas que ce soit une question de motivation, parce que au départ, ils veulent tous gagner, il y a toutes les motivations. Après,
Philippe, entre être motivé physique, et en face de toi, d'avoir une équipe qui est encore plus motivée, parce que les Suisses, quoi qu'on en dise...
Oui, mais c'est ce qu'on appelle...
On verra avec le Danemark.
Ensuite passer à voilà un peu comme une Ligue des Champions quand une équipe gagne 15-0 et puis elle est remontée 6-1 quoi. Je veux dire, après c'est dans l'inconscient.
Voilà, après maintenant faut tirer les enseignements de tout ça. Ils sont tous partis en vacances, ils vont tous se vider la tête, on repart sur des saisons normales.
Absolument. Voilà.
Est-ce que Deschamps va rester? Parce que le Gret veut le garder. Deschamps veut rester, c'est ça la question.
Ouais, Zidane pointe le bout de son nez, Deschamps va rester.
Pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour.
Non, c'est pas le but.
Je pense que Deschamps, il est champion du monde.
Oui.
D'accord. Avec tout le respect qu'on lui doit, c'est encore un gars qui peut apporter beaucoup à l'équipe de France.
Beaucoup de respect pour lui.
Voilà. Et ce mec-là, il n'y a pas beaucoup pour gérer les égos, comme disait notre ami Pierre tout à l'heure.
Après, si lui décide de partir à ce moment-là, peut-être que Noël Le Gret, il le laissera partir.
Mais il a décidé de partir sur un échec alors qu'il n'a eu que des succès.
Je pense que
Vu
la personnalité de Deschamps, il partira pas de lui-même. Je pense pas. Pas sur un échec, en tout cas.
Y a que nous qui considérons ça comme un échec. Non, mais parce qu'il y a que nous qui.
C'est pas l'équipe de France.
Contre la Suisse,
quand même.
L'Allemagne.
Je suis sûr que à la base, Deschamps, lui, n'était pas persuadé qu'il allait passer obligatoirement contre la Suisse.
L'objectif, c'était au moins passer dans le carré d'as.
C'était
l'objectif de Noël Le Gret et de Deschamps d'être au moins dans le carré d'as, c'est-à-dire au moins jusqu'en demi-finale.
C'était l'objectif. Mais je pense que à l'heure actuelle, le soir dans son lit, à l'époque, Deschamps, il voyait pas sa victoire aussi facile que nous.
Non, mais ça, il le sait. Voilà. Il est sportif de haut niveau. Il sait qu'il n'y a jamais rien qui est facile. Le grand public, parfois, croit que c'est trop facile. Bah. C'est pour ça que je parle de question de motivation. Les sportifs, ils sont motivés autant les uns que les autres. Ils savent que ça va jamais être facile et qu'il y a des adversaires en face qui sont autant motivés qu'eux. Après, ça ça se passe pas toujours comme on le souhaite. Oui. Voilà.
Là, sur ce match-là, peut-être que c'est une sorte de petite faute professionnelle, peut-être qu'ils
sont... ils ont changé physiquement, mais surtout
mentalement, je pense.
C'est vrai que les Suisses, par contre, ils peuvent carrément être appréciés après le but contre, après le pénalty que stoppe Lloris, et ils ont rebondi de plus belle, et physiquement, et psychologiquement. Ouais, eux, ils étaient à 120 degrés, du Barça contre le Paris Saint-Germain. Ils étaient à 120 degrés dans l'inconscient, dans les têtes. Voilà.
Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai contrairement à d'autres défaites, et je le sens aussi dans l'environnement, la presse, gens, si vous voulez, c'est que moi j'étais abattu le soir même et puis le lendemain.
Oui,
un peu passé,
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi.
Voilà,
c'est moins 2002.
Voilà. Oui.
Et puis la défaite de 2006 en finale,
c'est vrai qu'avec un peu.
Et moi, dans ma tête, je me dis. Moi, à la limite, je m'en fous, je préfère être champion du monde l'année prochaine.
Avec un peu de recul, les commentaires sont un peu moins ardus.
Mais oui, non, mais c'est toujours pareil,
c'est sûr.
C'était ce que je voulais dire. Pierre me dit, mais tu gagnes la séance de tir au but. Le commentaire, il est un tout petit peu plus modéré, fatalement, parce que c'est le résultat qui compte dans le
sport. C'est bien pour ça que je vous dis que c'est un accident de parcours et qu'il faut relativiser et puis qu'on va rebondir, etc.
Justement, on va marquer maintenant la pause et on va parler. Il y a eu l'élimination de l'équipe de France, mais il y a eu l'élimination du Portugal, champion d'Europe.
Non, ça, on en parle.
De la Croatie, vice-championne du monde.
De l'Allemagne.
Sur laquelle on vit sur le passé. Donc, vous voyez, il n'y a pas que l'équipe de France. Oui. Allez, la pub et la musique.
Nouveauté à l'Abbatiale de menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatiale de menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans, confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Des vins de qualité pour votre repas de famille, entre amis, pour une réception ou un mariage, un cadeau original, un vieux millésime ou un whisky étonnant, alors plus d'hésitation. Venez découvrir au 135 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, la cave Rambolitaine. Votre caviste indépendant, votre antiquaire du vin. Pour suivre nos animations, retrouvez-nous sur notre page Facebook, la cave Rambolitaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous écoutez RVE sur 103.7. RVE 103.7.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût. Car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. De l'aube jusqu'au crépuscule et même la nuit comme un hibou. L'amour le rend en coctambule, des cocoricots plein le cou. Le coq rêvait à sa pendule de Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, oh mon amour. Du Poitou, un coq aimait une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles en écoutant son Don Juan lui seriner sa séguedille pour imaginer son trépas. Point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coco vin, coco vin, dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule.
RVE 103.7.
Voilà, les 103.7, 10h29, hein, sur cette émission très, très enflammée ce matin, que vous pourrez réécouter en podcast, comme toutes les émissions depuis le début de cette saison. Et même si on prend notre grille d'été dès demain, ben, nous, on est là jusqu'au 10 juillet pour coller donc à l'actualité sportive. Alors, messieurs, l'équipe de France est éliminée, mais toutes les équipes qui étaient dans ce fameux groupe de la mort, l'Allemagne et le Portugal éliminés, donc on va naturellement, fidèles à notre tradition, revenir sur les principaux résultats. D'abord, la première grosse surprise, en sortant de ce studio, c'était dimanche après-midi, Van der Poel, sur les routes du Tour de France, gagne une belle victoire pour les Pays-Bas, et dans le même temps, les Pays-Bas se font éliminer par la République tchèque 2-0.
C'est une grosse surprise parce que bon, les Pays-Bas avaient fait un...
Ils ont flanché complètement en deuxième mi-temps, les Pays-Bas.
Ils avaient fait une phase de groupe plutôt bonne, où ils avaient marqué beaucoup de buts. Ils ont une équipe quand même avec des joueurs
assez jeunes, puis c'est solide.
Et ils sont etc. Et contre la République tchèque, ils sont fait. Il y a eu un tournant dans le match. C'est une grosse occasion manquée par un attaquant néerlandais, puis derrière l'explosion de Litt.
C'est souvent ça le foot,
qui fait que le match a tourné. Puis après, ils avaient complètement la tête.
C'est vrai que l'équipe des Pays-Bas, on l'attend toujours dans les grandes compétitions. On les met toujours plus ou moins favoris. Et puis, ils vont jamais au bout. Que ce soit en Coupe du Monde ou en Ligue des Nations,
qui est en construction depuis plusieurs années, et ils sont encore très inconstants.
C'est vrai que les Tchèques, ils ont fait une forte impression dans les valeurs de combat, de dépassement, etc. Enfin,
de volonté.
Et ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir parce qu'il y a plusieurs styles de foot, en fait. Eux en pratiquent un qui peut plaire ou pas, mais moi, ça me plaît parce qu'ils vont au bout d'eux-mêmes, en fait.
Il y a peut-être une équipe surprise qu'on n'attendait peut-être pas ou qu'on attendait, je sais pas, le Danemark.
On parlait justement du Danemark.
C'est sûr que...
Donc, Danemark a été battu deux fois.
En
phase de groupe, qui a quand même terminé donc deuxième de son groupe, un groupe à trois points, puisque le deuxième est à trois points, puis Danemark qui est donc monté en puissance et qui est donc en demi-finale. Alors, ensuite, le soir, on est obligé d'en parler.
Oui.
Un match
malheureusement
d'attentisme quand même, où la Belgique a battu le Portugal 1-0. Bon, excepté le coup d'éclair
du frère de Hazard.
Sauver un peu ce match, on est resté sur notre fin. Ensuite, les Portugais ont poussé, sont tombés sur un très bon Courtois. La Belgique s'impose 1-0.
C'est vrai que Thibaut Courtois a fait un super match, mais bon, les Portugais n'ont pas été à la hauteur non plus,
ils ont pêché dans la finition.
Ils ont vraiment commencé à mettre la pression à 15 minutes de la fin. C'était déjà trop tard. Si le but des Belges était arrivé un petit peu plus tôt, peut-être qu'ils seraient un petit peu plus arrachés. Je les ai trouvés un petit peu. Comme l'équipe de France à la hauteur.
Oui, mais autant Suisse-France, ça a quand même été un match avec beaucoup d'intensité, un des meilleurs matchs de l'Euro d'ailleurs, comme tous les matchs. Autant Belgique-Portugal, il n'y a pas beaucoup de rythme.
Je vous dis, les Portugais ont commencé à jouer à un quart d'heure de la fin, c'était trop tard.
Mais pourquoi toutes ces équipes, elles commencent à jouer à un quart d'heure de la fin, quoi, avec le talent qu'elles ont
C'est sûr.
On est dans des matchs éliminatoires, élimination directe.
Moi, j'imputerais la faute quand même à Fernando Santos, l'entraîneur de l'équipe portugaise, qui qui fait des changements un peu tardifs, quoi. André Silva qui rentre tard,
Félix, Joao Félix qui aurait pu rentrer un petit peu avant aussi.
Mais bon, après c'est vrai que c'est un match, les Portugais auraient pu ils auraient pu marquer.
Il y avait la place, oui, c'est sûr qu'il y avait la place.
Ils ont dominé toute la deuxième mi-temps, ils ont eu des occasions.
Les Belges ont défendu,
Enfin dire que les Belges ils l'ont joué un peu à la portugaise ou à la française.
Non, mais quand on les bat en finale du mondial, c'est comme ça.
Il faut dire que
on a défendu.
Bon, après, il faut dire aussi que les Belges ont subi, mais ils ont procédé en contre-attaque. Et si vous vous rappelez bien, le but, c'est un but sur contre-attaque.
Ouais, en tout cas, un des plus beaux buts.
Mais
bon, ouais.
Non, mais pour finir, c'est vrai que la Belgique, ils sont passés. Comme la France, voilà. Ils ont perdu en plus De Bruyne et Eden Hazard sur ce match-là.
Il y a eu des blessés aussi là.
Voilà. Oui.
Et si on regarde ce match qui était cette poule qui était le groupe de la mort, les trois qui faisaient partie des favoris sont éliminés. La France, le Portugal et l'Allemagne.
On a eu des matchs de très haut niveau.
C'est vrai.
Et ça a peut-être joué au niveau de la fraîcheur physique.
Je voulais quand même tirer un coup de chapeau à Cristiano parce que
c'est vrai qu'il a 5 buts.
Lui, il a tenu son rang.
Oui, ouais, c'est vrai.
De toute façon, c'est la classe.
Ouais, bah oui.
Lui, c'est un grand.
Alors, même s'il perd, il a tenu son rang.
Voilà.
Avant que l'équipe de France ne se fasse éliminer par la Suisse, dans l'après-midi, l'Espagne avait battu la Croatie 5-3 après prolongation. Drôle de match. C'est bizarre, cette équipe espagnole, quand même. Elle avait le match gagné, elle se fait remonter.
L'Espagne, pour ne pas décevoir Pierre.
Après prolongation, la Croatie, vice-championne du monde, aussi éliminée en 8e de finale.
Mais c'est pareil, le jeu de l'Espagne en ce moment avec Luis Enrique, il a décidé de ne pas mettre un seul joueur du Real Madrid. Je ne comprends pas son attitude. Et c'est vrai que l'équipe d'Espagne pratique un jeu quelconque. Elle a peut-être le mental que nous, on n'avait pas.
Elle a des baisses d'intensité dans son match. Elle a des temps forts et des phases
Je ne les vois pas aller en finale.
Ah non, je pense pas. Moi non plus.
C'est vrai que c'est l'équipe qui est en demi qui nous laisse trop sur notre fin, l'Espagne. Oui. Parce que.
On l'aurait joué, on pouvait la battre sans prendre.
Non, mais je pense, c'est vrai.
C'est ça le pire.
Après, les tirages de groupe, c'est comme ça.
C'est une équipe. C'est le jeu que j'aime pas voir, quoi. C'est le Barça d'une certaine époque où il se passe beaucoup la balle.
Oui, mais enfin, quand tu passes la balle à 80 km/h, c'est bon. Quand tu passes la balle à 20 km/h,
c'est latéral. C'est un exemple.
Quand vous voyez un patron comme Sergio Ramos derrière, ça compte quand même. Je comprends pas que Luis Enrique ne sélectionne pas un joueur comme ça. Je sais pas.
Il a peut-être ses raisons.
Après la Croatie, c'est une demi-surprise quand même, Philippe.
Ils sont dans une reconstruction.
C'est une équipe vieillissante.
C'est pour dire quand même que ce premier tour a fait des dégâts. Le champion du monde, le vice-champion du monde et le champion d'Europe.
Après, l'Euro, c'est plus difficile que la Coupe du Monde, faut le savoir. C'est plus relevé.
Alors ensuite, Angleterre-Allemagne, match très fermé. Et puis ça s'est complètement décanté dans le dernier quart d'heure où enfin les attaquants anglais ont mis à défaut les carences offensives allemandes. 2-0, c'est peut-être le match déclic pour l'Angleterre qui n'avait pas fait des grosses impressions au champion du jeu et qui monte en puissance.
C'est vrai que quand vous avez deux attaquants comme Sterling et Kane,
Sterling, c'est le meilleur joueur.
C'est sûr. Quand vous avez deux joueurs comme ça dans votre équipe, c'est sûr que vous pouvez que aller de l'avant et gagner.
Sterling, c'est le meilleur joueur de l'Euro pour l'instant.
Et Bibi, l'Allemagne, on vit un peu sur le passé. Les Allemands se font sortir au premier tour du mondial en 2018. Là, ils se font sortir. C'est une équipe quand même qui se cherche. Nous maintenant, on les bat assez régulièrement, y compris en match officiel. Est-ce qu'on vit pas un peu trop sur le passé avec les Allemands?
Il y a toujours cette rugosité avec les Allemands.
Mais
c'est peut-être cette rigueur est toujours là et dans les grands moments, dans les matchs. Je veux dire que
à peu près correct, c'était contre le Portugal. Malheureusement pour
eux, ils ont fait un super match.
Contre les Français, ils ont pas été mauvais. C'était rigueur contre rigueur.
Oui, mais ils ont encore été meilleurs contre le Portugal. Malheureusement, ils devaient gagner. Ils ont gagné 4-2. Et ça me peine un peu, mais bon, je dois le dire quand même.
C'est vrai.
Les Allemands, ils n'ont pas besoin de bien jouer. Ils ont cette rigueur qui font que on te contient.
Maintenant c'est terminé.
C'est pour ça qu'ils perdent leur match. Défensivement, ils sont moins bons qu'offensivement.
Qu'il est temps que Joachim Löw
cède
sa place.
On peut faire le même constat avec nous. Qu'a fait?
On n'a pas bien. En 98, c'est une rigueur défensive qui nous a gagné.
Là, pourquoi on a été champion du monde? Parce qu'on a été rigoureux. On jouait pas les meilleurs. On a été rigoureux. On a su contenir les équipes. Cette année, on a l'impression qu'on a été, à part l'Allemagne, qu'on a contenu.
Si si vous regardez bien, si l'Angleterre aujourd'hui est si forte, c'est qu'ils sont rigoureux.
Zéro but encaissé pour l'instant.
Bah oui, donc, on sait très bien que la défense, ça paye plus que l'attaque, malheureusement, mais souvent.
Voilà. Donc, et puis donc, là, le soir, on a eu un match un peu bizarre. Hein. L'Ukraine qui bat la Suède 2-1 après prolongation. L'Ukraine qui a quand même fini beaucoup plus fraîche. Elle a fini à 11 contre 10. C'est ce qui a fait la différence d'un match assez équilibré où il y a eu quand même des baisses de régime en deuxième mi-temps. Mais voilà, l'Ukraine qui bat une équipe suédoise qui traditionnellement.
Par contre, hier soir, ils ont pris l'eau. Ils ont pris l'eau 4-0 contre.
C'est normal. Ils étaient à leur maxi.
Ils étaient rincés, oui, c'est sûr.
Pierre, ce match 2-1. La Suède, traditionnellement, c'est une équipe qui joue en 8e, voire un quart de finale.
Oui. Mais là, après, voilà, c'est un match équilibré entre deux équipes qui se valent. Et puis, je pense que sur les temps forts, les Ukrainiens ont fait la différence.
C'est la fraîcheur physique parce qu'ils ont fini quand même en supériorité numérique.
Oui, en plus.
Et c'est ce qui fait la différence.
Donc, la Suède et l'Ukraine, le Danemark, c'est fini maintenant, ces équipes qu'on croit qui s'est trop, c'est facile de jouer.
Oui, tout à fait.
Alors, justement, José en parlait hier, 4-0. Bon, l'Ukraine, elle avait tout donné physiquement, psychologiquement, mentalement.
C'est sûr qu'hier, ils ont pris l'eau.
Face à des Anglais qui montent en puissance.
Voilà. Quand vous avez Harry Kane qui vous marque deux buts derrière Sterling et puis Maguire. Après, qu'est-ce qu'on voulait faire contre ça?
Ils étaient dans la gestion, les Anglais. Voilà.
En fin de compte, ce qui leur a fait mal aux Ukrainiens, c'est qu'ils ont pris un but à chaque début de mi-temps. Non, ça les a.
Il y a une différence de niveau.
Quand tu marques à la 3e minute, ça t'aide beaucoup aussi.
Voilà, c'est bien ce que je viens de te dire.
Pour la confiance.
Et puis après, il y a une différence de niveau. Faut pas se réveiller. Si c'est plus un fossé comme dans le temps.
Non, mais les Anglais, ils ont une profondeur de banc aussi assez impressionnante parce que si tu veux, ils ont fait débuter Jadon Sancho sur le côté droit, c'est pas facile à dire. Ils ont encore Marcus Rashford sur le banc, enfin et puis Raheem Sterling,
et puis ils sont montés en puissance parce que c'est vrai qu'ils ont battu la Croatie 1-0. Bon, ils ont fait un bien piètre 0-0 contre l'Écosse, ils battent la République Tchèque 1-0. Équipe qui monte tout doucement comme ça en puissance et qui arrive aujourd'hui.
Ça
va être un super match contre le Danemark.
Mardi, ça va être un super match. Mercredi,
Italie-Espagne.
C'est pour ça, quand on regarde cette équipe d'Angleterre et qu'on regarde l'équipe de France, pourquoi on ne réussit pas à avoir le même parcours
On l'a eu le même parcours. On est champion du monde.
Non, mais je parle là.
Eux, ils n'ont été qu'une fois. Ils n'ont jamais été.
Non, mais dans ce championnat d'Europe.
Oui.
Pourquoi on n'a pas réussi à faire parce qu'eux, ils ont un championnat rigoureux, ils ont des joueurs qui jouent aussi à droite et à gauche,
c'est tout.
Les Anglais aussi ont un championnat rigoureux.
Et la plupart de nos joueurs, ils sont bien, ils sont.
Non, mais ils ont eu un groupe aussi.
Et beaucoup de nos joueurs d'équipe de France jouent en Angleterre, jouent en Allemagne, jouent en Espagne. Et c'est vrai qu'ils ont des championnats assez rigoureux. Et je comprends pas. Je suis comme toi. Je comprends pas.
Non, mais je pense
comment on peut ne pas y arriver.
Voilà.
Après.
Un groupe quand même plus facile. Bon,
Après là, si la logique est respectée, on devrait avoir un Italie-Angleterre en finale.
Absolument. Et attention à Londres. Alors justement,
je vois l'Italie aller au bout et gagner la finale. Je vous l'ai dit.
On va en parler d'Italie qu'on avait parlé la semaine dernière, qui avait un peu tremblé contre l'Autriche, mais qui s'était imposé 2-1 dans la prolongation, et puis le Danemark qui avait battu le Pays de Galles 4-0. Alors justement, auparavant, donc bien le Danemark a battu hier la République Tchèque 2-1. C'est l'équipe qui monte, le Danemark.
Très belle équipe. Oui.
Logique et mérité.
L'accident cardiaque
ça peut être une explication
en début,
mais ils mettent une intensité dans le match et longtemps en plus.
Ça a surmotivé les joueurs, c'est vrai.
Parce que deux défaites en phase de poule quand même,
Mais ils font
après. C'est quand même nouveau ça.
Ils perdent contre la Belgique alors qu'ils font un bon match.
Une bonne première mi-temps contre la Belgique.
Ils perdent contre la Finlande avec ce qu'on sait qui est arrivé. Mais ils sont impressionnants physiquement et volonté d'envie et d'abnégation. Il y a des joueurs, Dolberg, il met pas un pied devant l'autre avec Nice. Il est dans notre championnat
Il faut quand même rappeler que dans le Canada, c'est quand même des grandes nations de football. L'Italie qui a gagné donc 4 fois la Coupe du Monde et une fois l'Euro. L'Espagne qui est 2 fois championne d'Europe et une fois championne du monde. Le Danemark, ils ont quand même gagné un Euro.
En 1992,
ils ont gagné une Coupe du Monde. Donc
il y a du beau monde, c'est sûr.
C'est l'Euro.
Il y a toujours des équipes, même si dans le Caredas, ils sont un peu quand même inattendus. Un des meilleurs matchs, peut-être le plus beau match de cet Euro au niveau qualité de jeu, c'est la victoire justement de l'Italie devant la Belgique de Buzyn.
Ça a été un super match avec de l'intensité.
Et puis, quel qualité technique aussi,
Ouais. Ça doit être agréable de, d'être au stade avec un match comme ça. Ouais. Où y a pas... On peut juste noter le petit coup de cinéma de Immobilier.
Oui.
Celui-là, par contre, il aurait mérité un petit carton jaune quand même.
Mais enfin, bon, c'est pas le seul. Hein.
Oui, voilà. Oui, mais là, alors, là, il se couche par terre. Peut-être que c'est la défense belge a marqué un temps d'arrêt. Ouais. Bon, je dis pas que le but est arrivé à cause de ça, mais il voit qu'il y a but, il se relève et il se passe rien alors qu'il se tord des douleurs 20 secondes avant. Faut arrêter ça. Pour un professionnel, c'est moche devant la télé.
Je suis d'accord avec toi, mais
ils le font tous.
Tu sanctionnerais beaucoup, quoi.
Oui, mais là, c'est flagrant. Les caméras étaient en gros plan sur lui.
Oui, bien sûr. Après,
moi, je préfère parler de la qualité de l'équipe italienne. C'est le collectif défensif et offensif. C'est le collectif qui fait que cette équipe, elle défend bien
Roberto,
et elle marque des buts.
Roberto Mancini a su créer un groupe homogène et il va de l'avant. Les attaquants, quand vous voyez Chiesa, ce gars-là, mais il est partout, il est derrière, il est devant. Et on peut regretter la blessure de Spinazzola. Et c'est vrai qu'il va leur manquer pour les demi-finales et éventuellement la finale.
Cette équipe-là, elle a été meurtrie parce qu'elle n'a pas participé à la Coupe du Monde 2018. Donc ils partent de ce constat-là, en fait. Ils sont en mission. Ils sont focalisés sur leur objectif, c'est de refaire plaisir à la nation italienne, qui est un pays
de football. C'est pas
comparable à la France. On n'a pas une culture qu'ils ont du football.
C'est sûr.
Et là, ils sont préparés à ça. Mancini, c'est le patron. Il a pas mis de stars dans cette équipe.
Fait ça forcer ce collectif.
Voilà.
Ils sont conditionnés pour ça. Voilà, ils sont favoris.
Ils sont favoris, et c'est l'équipe, j'en parlais avec Bibi la semaine dernière, parce que ça m'aurait embêté que l'Autriche batte l'Italie sur le plan du football. C'est vrai qu'il y a une équipe qui a fait une grosse impression. Ils ont commencé leur premier match, ils ont gagné 3-0 devant les Suisses, juste avant. Ils ont battu les Turcs 3-0 aussi. C'est une équipe qui a toujours fait ses matchs, qui a été un peu bousculée quand même la semaine dernière
contre l'Autriche.
Ça n'est pas fallu de grand-chose, mais elle a eu la force, avec le banc en plus, de pouvoir
rebondir. Qu'ils ont un physique, un mental, et puis Mancini a su les canaliser.
Il est vieux, Chiellini.
C'est le seul vieux, on va dire.
Quand on le voit capitaine qui dirige ses troupes, en fait, c'est...
C'est ce qui fait la force des grandes équipes.
En fin de compte, il entoure tous les petits jeunes qui avec lui.
Et ce mental fait que les Italiens sont bons offensivement, marquent, et ils savent défendre. Voilà, c'est ce mental.
Ils attaquent tous, ils défendent.
Ils ont toujours su défendre, mais...
Enfin, différemment, là.
Mais là, on voit bien que c'est plus le Catenaccio, quoi.
Ils me font penser à l'équipe de l'Ajax de 70-80. Tout le monde attaque, tout le monde défend, et ça, c'est beau à voir.
Pour revenir sur la Belgique, grosse déception, parce que la Belgique, maintenant, ils vont commencer à... Il y a des joueurs vieillissants.
Il y a des générations qui vont passer à travers quelque chose.
Parce qu'ils avaient quand même une très belle équipe.
Deux quarts de finale à l'Euro, une demi-finale de Coupe du Monde.
Ils vont arriver en Coupe du Monde 2022.
Ça va marquer un temps d'arrêt.
C'est une grosse déception pour eux.
C'est vrai.
Alors... Eh ben, ils joueront l'Espagne, l'Italie en demi-finale, justement l'Espagne qui s'est difficilement imposée 1-1 après prolongation, 3 tirs au but 1 face à une équipe suisse, on a parlé, très valeureuse,
qui ne lâche jamais,
à 10, mais qui a été à deux doigts de faire l'exploit quand même. Elle voulait arriver au tir au but, bravo quand même à cette équipe suisse. Donc ça revalorise un peu
l'effet de
l'élimination de l'équipe de France. Non mais c'est vrai.
Voir ça comme ça.
Oui.
Franchement, c'était un match.
C'est sûr que quand on voit Belgique-Italie après, il y a une grosse différence.
Hein. Voilà, il n'y avait pas la même.
Bravo à la Suisse, parce que c'est des équipes valeureuses qui se battent jusqu'au bout, et même si elles perdent au bout, je pense que quand on a mouillé le maillot, on le dit avec nos clubs, etc., les équipes qui mouillent le maillot, on leur en veut moins.
Il y en a beaucoup cette année en plus.
Physiquement, ils étaient mieux que les Espagnols.
Je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce qu'à chaque fois, on dit que le tireur, Philippe l'a répété il y a plusieurs reprises, le tireur ne rate pas son tir au but, c'est le gardien qui défend. Sommer, il a arrêté le penalty de Mbappé. C'est pas Mbappé qui a loupé le penalty, c'est Sommer qui a arrêté. Il est parti du bon côté. Et c'est vrai qu'on met toujours l'accent.
Je sais bien.
Toujours.
Mais Voilà. Il y a des joueurs qui tirent mieux les pénalités.
Mais excuse-moi, il a bien tiré son pénalité.
Oui, on va pas enlever la valeur au gardien.
Chez les Suisses hier, il y a pas, il n'y en a pas beaucoup qui ont su tirer les pénalités.
Oui, par contre, ils étaient un peu, je pense qu'ils étaient rincés psychologiquement.
Mais franchement, dans les quatre qualifiés pour les demi-finales, l'Espagne a fait la moins forte impression.
Absolument.
Et vous verrez que, attention à eux, parce que,
moi, c'est le football qui m'intéresse.
Je sais pas pourquoi, je sens l'entourloupe.
Pierre, il parle en espagnol.
Donc, mardi 21h, Italie, Espagne, deux grandes nations de football. Oui. Hein, on peut imaginer les audiences que ça va faire. Et puis, les Nordiques, qui eux vont jouer
les Anglais,
donc, mercredi, Angleterre.
Mais attention au Danemark, quand même, que les Anglais se méfient quand même.
Que les Danois soient champions d'Europe, moi, il y aurait des regrets pour personne.
Oui, moi aussi.
On dirait comme la Grèce.
Mais je vous répète, je vois quand même l'Italie
aller au Portugal, quoi. Ils avaient des regrets.
Ça joue mieux que la Grèce quand même.
Ah oui, non, mais
les 1-0,
faut compter avec eux.
Allez, c'est très bien. En tout cas, on s'est régalé, on se régalera encore dans cette dernière semaine, puisque ensuite, ce sera la finale dimanche prochain. En attendant, on marque la deuxième page de pub et la deuxième pause musicale.
Vous recherchez la brillance absolue ? L'horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je ne pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture et caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21 20.
Vous êtes un particulier ou un professionnel ? Vous souhaitez réaliser des travaux dans le neuf ? Rénover et mettre aux normes vos installations électriques ? Programmer et gérer efficacement votre chauffage électrique ? Plus d'hésitation, contactez la société Brifo Électricité, votre spécialiste. Devis gratuit et dépannage rapide. Brifo Électricité 01 30 46 11 56 et sur brifo-électricité.com.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
Les plus grands classiques des années 70
sont sur RVE.
The children play, smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. Falling on the ground, I sit and
les régions. RVE 103.7.
Voilà, messieurs. Vous avez le bonjour de Stéphane Caen, hein, qui était là avec nous la semaine dernière, qui a essayé sa Subaru, hein, et qui est prête pour le rallye donc descend Margel près de Rouen,
bonjour,
ainsi
rallye.
Que ouais. Donc bonjour pour le Tour Stéphane. De Corse, donc je crois que ça sera au mois d'octobre. Voilà. Et puis je voulais faire une petite annonce, vous dire que la semaine prochaine, eh bien il y aura les championnats d'Île-de-France de cyclisme sur route jeune, minime d'abord 5 tours, 37 km 615 avec un départ à 8h15, cadet 10 tours, ça sera 75 km 230, un départ à 10h, et junior 16 tours, ça sera 120 km 368, départ à 13h30, tout ça devant la mairie de Bullion, arrivé devant la mairie de Bullion, et il faut savoir qu'il y aura donc des pensionnaires du HPR de Bullion qui par groupe de 4, dans une voiture adaptée, pourront suivre donc un ou deux tours de cette course. En tout cas, c'est une belle initiative de la section cyclisme de Poigny-Rambouillet, et on aura d'ailleurs Olivier Bourdin qui finira la saison avec nous le 18 juillet, qui nous en parlera. Et puis, Pierre, la semaine dernière, on se posait la question, l'équipe de France va être championne d'Europe de foot, elle ne le sera pas. Alaphilippe va gagner le tour, il ne le sera pas, oui. Probablement. Et puis l'équipe de France féminine de basket a été battue 63-54. Ça n'a pas été le week-end et la semaine du sport français, même si Zarco a gagné donc son Grand Prix en moto. Un petit mot sur le Tour de France, messieurs, parce qu'on vit une première semaine quand même assez extraordinaire. Hein. On en parlait donc la semaine dernière de ce Tour de France. Alaphilippe qui gagne donc entre Brest et Landerneau. Mathieu Van Der Poel qui gagne le lendemain à Mur de Bretagne. Lorient Pontivy, c'est au sprint. Il y a eu beaucoup de chutes dans cette étape. Hein. C'est Tim Merlier, donc le coureur belge qui s'est imposé. Rodon Fougère, le retour du cave, Marc Cavendish. Et puis un contre-la-montre où Pogacar a écrasé tout le monde le lendemain entre Chanzé et Laval. Tour Châteauroux, on y était, deuxième succès de Marc Cavendish. 32 victoires contre 34 à Eddy Merckx. Donc Cavendish va peut-être rejoindre Merckx. Vierzon, le Creusot, ça c'était une sacrée étape. C'est un Slovène qui s'est imposé, Movic, hein, après une étape très disputée, très animée, qui a laissé beaucoup de dégâts. Et puis hier, Oyonnax, le Grand Bornand, Dylan Stones qui gagne, Pogacar qui écrase le tour. Il est joué le tour sportivement. Il n'est pas terminé, Pierre. Hein, les coureurs n'aiment pas ça. N'allez pas dire ça aux coureurs. Hein.
Non, mais là... Voilà. On en parlait hors antenne, Primoz Roglic qui a chuté, qui était un des qui était le
quelle démonstration,
le deuxième favori après Pogacar, qui abandonne ce matin.
Oui, Roglic aussi.
Voilà, Roglic c'est fini. Je vois pas qui peut battre.
Mais Pogacar quoi. Quelle démonstration déjà contre la montre mercredi, oui. Et puis hier quelle démonstration.
Il roule sur tout le monde. Ouais. Il y a personne peut le suivre. Alors hier il a fait une démonstration, c'était impressionnant. Tout le monde, il a tous ceux qu'il a dépassés, qui les a déposés. Il le regardait impressionné, même les autres coureurs. C'était une image assez fascinante. Mm-hmm. Non, mais je crois que...
C'était du Merckx ou du Hino. C'est-à-dire que rarement un coureur a attaqué aussi loin depuis les générations Merckx ou Hino.
Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut être nostalgique de ces temps-là. Mm-hmm. Merckx, Hino, ça fait très longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour.
Oui, ça ne sera pas cette année encore.
Et ça ne sera pas encore cette année, et c'est dommage.
Certains
c'est
sont nés.
On peut regretter les années Fillon et surtout Bernard Hino.
Ce qui serait bien, c'est qu'un Français rapporte le maillot à poids.
Oui.
Ça, c'est possible peut-être.
On joue bien à la Philippe qui a gagné la première étape à Landerneau, il a déjà rempli son contrat.
Oui, et puis il peut encore gagner des étapes. Il y a peut-être des étapes, je connais pas le parcours.
Alors aujourd'hui, c'est Cluj-Tigne, où l'équipe de France de foot vient souvent
en stage.
Là, c'est Tigne, c'est une belle étape de montagne.
Encore une belle étape de montagne.
Avec des cols hors catégorie, je pense, un ou deux. Je sais plus.
Mmh. Non, mais bon, on va suivre attentivement encore la fin de ce tour. Il peut se passer des choses, des chutes, des défaillances. Des coups de pompe comme on dit, on va voir, hein,
mais c'est vrai qu'un Tour de France où sportivement tout est joué à 2 semaines de l'arrivée, il y avait longtemps que c'était pas arrivé.
Oui, ça faisait longtemps. Après, le problème de ce Tour de France, ça a été évoqué par les coureurs et par les directeurs sportifs. Il y a eu beaucoup de chutes.
Ouais, mais tout le temps.
Non,
tout
pas
le temps,
Philippe, pas autant. Si, si. Début de semaine.
On est des vieux suiveurs du Tour de France. Je peux vous dire qu'il y a toujours eu des chutes sur des premières semaines de Tour de France.
Beaucoup.
Oui,
alors ça vient de certaines étapes.
Oui, il y a des oreillettes et il y a des vélos beaucoup trop légers. Voilà.
Oui.
Explication.
Les oreillettes, ça a peut-être changé. Le débat est lancé, ça a peut-être changé.
Il y a toujours eu beaucoup de chutes sur des premières étapes du Tour de France. L'année dernière, à Nice aussi, on se rappelle. Bon, c'est vrai qu'il avait plus la première étape à Nice. C'était une patinoire, il y avait aussi beaucoup de chutes, hein. Mais de tout temps. Alors après, on est passé sur des routes étroites en Bretagne, ça c'est différent.
Bon, enfin, voilà. C'est, ouais. Non, mais il y a des choses qui ont été reprochées.
On peut regretter la chute générale à cause d'une spectatrice. C'est vrai que ça a fait du dégât cette
aussi,
année.
Respect pour les coureurs. Hein. Respect pour les joueurs de foot, on siffle pas, les coureurs on les respecte.
C'est vrai.
Libye, le Tour de France.
Bah c'est oui effectivement c'est joué, va, ouais. C'est joué c'est joué il y a plus trop d'intérêt
trop de suspense, oui. Mais voilà. On a vécu une belle première semaine, une course dynamique animée avec des belles étapes, c'était sympa. Ouais. Ça fait partie des traditions en tout cas du Tour de France. José, les Portugais on ne voit pas trop, hein.
Cette année
c'est civil, le Tour de France au Portugal.
On le suit un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, moi, je me rappelle du temps d'Agostino, qui était un très grand coureur de l'époque. Il y avait plus de ferveur, mais c'est vrai, il y a Silva, il y a
Rui Costa.
Rui Costa.
Lui a gagné des belles étapes.
Mais c'est vrai que là, cette année, on suit moins le Tour de France.
Si, moi, je le suis autant. Ah oui, mais au Portugal, non. Non, regarde tous les matchs de foot.
Je parle des Portugais.
Voilà.
Il y a le tennis aussi à Wimbledon en ce moment.
Oui, ouais, voilà. Oui. Les Anglais, la semaine prochaine, ils gèrent à la fois et
la finale de l'Euro.
Finale de l'Euro et la fin de Wimbledon. Donc,
Il va y avoir du beau spectacle en perspective.
En tout cas, merci. Merci donc,
merci
messieurs.
À vous.
Bonne semaine comme nous. Bonne semaine à vous. On a plus de 3 matchs.
Bonne semaine à vous.
On a plus de 3 matchs, mais 2 belles demi-finales et puis une finale qui nous attend, dont on parlera et puis on fera le bilan de l'Euro la semaine prochaine. Merci à Guillaume d'avoir été une nouvelle fois très brillant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour donc la fin de cette configuration euro. Bon dimanche à toutes et à tous. Salut.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
RVE. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, pour faire face aux variantes Delta, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine s'adapte. Elle organise sa distribution de vaccins pour être au plus près des vacanciers. Plus de doses seront à disposition dans les centres, mais également chez les professionnels libéraux. Manifestation, les grèves se poursuivent ce week-end dans les aéroports de Paris. Environ 200 salariés ont manifesté hier contre la baisse des salaires. 3 syndicats appellent à la grève jusqu'à lundi pour obtenir le retrait du plan d'adaptation des contrats de travail. Ce dernier prévoit une baisse ou une suppression des primes. Perquisition au ministère de la Justice pour Xavier Dupont-Moretti. L'Union syndicale des magistrats est en cause. Le ministre